autour de la question. D'où ça vient ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
C'est pour qui ?
À quoi ça sert ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs à l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. En ce 1er mai, pour célébrer le travail de l'esprit et du corps, l'un n'allant pas sans l'autre, nous proposons aujourd'hui de sortir de nos cases toutes faites et de nos spécialités bien compartimentées, d'aller voir ailleurs, de faire feu de tout bois pour nourrir la vie des idées, en compagnie du physicien et philosophe Étienne Klein, formidable empêcheur de penser en rond qui nous invite dans son dernier essai Court-circuit, paru dans la collection Blanche chez Gallimard et dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Étienne Klein nous invite à briser les enclos, à provoquer des courts-circuits et si possible des étincelles en associant des éléments trop souvent séparés. Physique et philosophie, pensée et action, réalité et imagination, infini mathématique et engagement existentiel, raison et déraison, Einstein et Rolling Stones. Autour de la question comment provoquer des étincelles dans la vie des idées et comment faire cette science des passerelles si chère à un autre philosophe espiègle et visionnaire, le regretté Michel Serres. Bienvenue donc pour faire l'éloge du mélange des genres et des courts-circuits.
Le grand inventeur, j'en ai connu certains, mais enfin, bon, les grands inventeurs dans l'histoire, bien tous les grands inventeurs ont bifurqué par rapport à l'état de la science précédente. Et d'ailleurs, ils ont tellement bifurqué, tellement désobéi, qu'ils n'ont pas été reconnus par le contemporain. C'est extrêmement rare qu'un inventeur soit reconnu. Le premier cours que j'ai fait en sortant de l'école et de l'agrégation, ça a été « Qu'est-ce que l'invention ?» Ça m'intéresse beaucoup. L'idée de trouver du nouveau, trouver quelque chose qui n'a pas encore été vu, etc. Oui, c'est ça qui donne le plus de joie possible.
Oh les cœurs, donc pour ce 1er mai en votre compagnie, cher Étienne Klein, bonjour.
Bonjour, bonjour Caroline.
Merci d'être en direct avec nous pour provoquer des courts-circuits, hein, carrément. C'est le titre de votre tout dernier essai qui s'ouvre précisément sur une citation de Michel Serres, que vous venez d'entendre.
Oui, il m'a donné l'idée du titre. Il a écrit « Le disparate des vertus que la raison ne connaît pas, l'invention naît parfois du mélange des genres ». Des courts-circuits.
Ah,
d'ailleurs, le premier titre.
Titre
du livre, c'était « Mélange des genres ». Et puis le mot « genre » aujourd'hui a une signification qui a tendance à glisser.
Disons,
voilà.
Oui.
Donc j'ai choisi « court-circuit » et ça fonctionne mieux. Et finalement, la phrase que je viens de citer de Michel Serres résonne parfaitement avec ce qu'on vient d'entendre. C'est toujours émouvant d'entendre la voix de Michel Serres, surtout depuis qu'il est mort. Il a pratiqué en effet des chemins de traverse. Là, j'arrive de Chamonix, près du Mont Blanc.
Vous êtes un montagnard, oui, un escaladeur, un coureur.
Quand
aussi.
On est en haute montagne, quand on n'a pas de téléphone portable avec soi, on ne sait jamais trop bien si on est en Suisse, en France ou en Italie. Il n'y a pas de poste de douane, il n'y a pas de frontière marquée sur le sol.
À la croisée des chemins.
Voilà, on ne sait pas où on est et ça n'a aucune importance en général.
Voilà donc un mélange des genres, une croisée des chemins qui vous intéresse, qui réjouit donc l'alpiniste que vous êtes, mais surtout le physicien et philosophe des sciences que vous êtes. Michel Serres, dans l'extrait qu'on a entendu, parlait aussi de la joie, de l'effroi et de la joie. Les deux vont ensemble, en fait, c'est d'être un peu secoué, comme votre titre, court-circuit, de nous secouer un petit peu.
Michel Serres, il incarnait la joie de connaître, plutôt la joie de comprendre. Il ne s'agit pas de faire preuve d'érudition, mais de comprendre ce qui se passe avec la connaissance. Et il m'a servi d'exemple. J'ai travaillé avec lui au sein d'une équipe à la rédaction d'un dictionnaire transdisciplinaire, justement, qui s'appelle « Le trésor des sciences », en partant d'un constat tout simple. Les différentes disciplines scientifiques emploient parfois des mots communs à toutes les disciplines, le mot « temps », le mot « modèle », le mot « théorie ». Mais est-ce qu'un biologiste, par exemple, va entendre le mot « temps » comme l'entend un physicien ou un philosophe ? Et donc, il avait choisi des experts dans différentes disciplines et leur demandait de collaborer à la définition, à l'éclaircissement d'un mot qui était commun à toutes ces disciplines.
C'est une vraie, pour le coup, une vraie transdisciplinarité, une indisciplinarité aussi, que, parce qu'aujourd'hui, et vous le dites vous-même, on est de plus en plus spécialisé, on met de plus en plus des étiquettes, on est de plus en plus compartimenté dans nos savoirs, dans nos connaissances, et de fait, parce que c'est complexe aussi.
Absolument, mais le mot transdisciplinaire n'est pas dans mon livre, parce qu'il sous-entend qu'il va falloir diffuser partout, parler de tout. Mmh. En fait, c'est au contraire un resserrement, c'est un travail intellectuel de cohérence. Si je prends le mot temps qu'on a cité tout à l'heure,
oui.
Partant du constat que, par exemple, les physiciens en parlent, mais aussi les philosophes, depuis beaucoup plus longtemps que les physiciens d'ailleurs, il y a une première question évidente qui se pose. Quand un physicien parle du temps, est-ce qu'il parle de la même chose qu'un philosophe? Si la réponse à cette question est non, pourquoi c'est le même mot? Il faudrait distinguer ces deux choses différentes pour empêcher la confusion. Si au contraire, on considère qu'ils parlent de la même chose, il y a une deuxième question qui survient, c'est est-ce qu'ils disent, les philosophes et les physiciens, les mêmes choses de cette même chose? Et la réponse, évidemment, est non. Einstein ne parle pas comme Kant ou Heidegger. Et donc, il va falloir discuter de la bonne façon de répondre à la question du temps en tenant compte de ce que disent les philosophes, mais aussi en tenant compte de ce qu'apprennent les physiciens.
Vous dites discuter, Étienne Klein, puisque le titre de votre ouvrage est Court-circuit, c'est discuter, voire même disputer en fait ensemble de notions justement très différentes ou différemment abordées par un philosophe ou par un physicien.
En fait, il s'agit de débattre en utilisant le mot débattre dans son sens original. Débattre au XIIe siècle, c'était pas se disputer au sens de s'engueuler, si vous me passez l'expression. C'était faire ce qu'il faut faire pour ne pas se battre. C'est-à-dire s'asseoir autour d'une table, ne pas utiliser d'argument d'autorité, argumenter, pratiquer ce que Bergson aurait appelé une politesse de l'esprit. Et à la fin, on sait ce sur quoi on est d'accord et ce sur quoi on n'est pas d'accord. Et si on veut se battre, on peut le faire, mais on sait pourquoi on le fait. Et je trouve que le verbe débattre a perdu ce sens pour devenir simplement synonyme de bagarre, de petite guerre, etc.
D'autant que la vie des idées, vous le dites, pour être vivace, elle doit être irriguée par tout un tas de correspondances, d'associations. Vous reprochez aujourd'hui cette compartimentalisation, finalement, des savoirs, ou le fait qu'on n'ose plus, finalement, non pas mélanger, mais être, comme nous dit à nos auditeurs à Madagascar, autrefois, les savants étaient à la fois philosophes, mathématiciens, poètes.
Il y a ce phénomène, si les spécialistes parlent aux spécialistes en général, mais il y a un autre phénomène qui fait concurrence à cet enfermement, c'est le fait que, par ailleurs, tout le monde parle de tout. Chacun se croit autorisé à parler de sujets qu'il ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de commentaires. On est entré dans une sorte de régime du commentariat. Et mon but, c'était de trouver un langage qui permette de faire entendre une parole spécialisée dans un discours public. Donc de réhabiliter la connaissance dans notre façon de parler de tous les sujets.
Autour de la question comment produire des étincelles dans la vie des idées, donc on l'a bien compris en sciences exactes, en sciences dures, hein, comme on dit, comme en sciences humaines, mais pourquoi séparer les deux, ça on y reviendra peut-être. Je vous propose l'éclairage d'un juriste à l'esprit libre et ouvert, il s'appelle Laurent Fombossier, il est professeur de droit public, il s'intéresse particulièrement à un nouveau champ, celui du droit de l'environnement et pour l'environnement, on l'écoute.
Il faudrait regarder dans l'histoire des sciences, même si on n'a pas beaucoup d'inventions, si je puis dire, ou de nouvelles trajectoires qui seraient liées non pas à la science elle-même, mais à des effets de rencontres exogènes, etc., au extérieur. On cherche beaucoup, nous, dans le monde du droit, des juristes atterrés, alors peut-être pas au sens où les économistes l'entendent, mais des hétérodoxes. Et on a besoin de ça. Et l'hétérodoxie, à mon avis, passe par l'ouverture à des disciplines, pas simplement pour le chic que ça peut comporter, ou ce qu'on pourrait appeler, vous voyez ce que je veux dire, ce qu'on dit toujours à nos étudiants, garder une ouverture d'esprit. C'est pas que ça. C'est que je pense que les matières ne peuvent pas se penser de l'intérieur elles-mêmes. C'est-à-dire que leur mutation suppose peut-être de prendre appui sur autre chose qu'elles-mêmes.
J'imagine que vous voulez réagir, Étienne Klein.
Ben, je réagis pour dire que je suis d'accord. Et ça va de soi, d'ailleurs, trois de l'environnement. Ça veut dire qu'il faut connaître le droit pour travailler sur ce sujet et il faut aussi connaître les problèmes que pose l'environnement. Ça suppose donc d'aller voir un peu à côté ce qui se passe pour mieux penser sa propre discipline. Il faut aller voir dans les abords de sa discipline. Il ne s'agit pas d'aller loin où les questions n'ont plus du tout le même statut, mais de creuser des questions en regardant, par exemple, s'agissant de la physique, l'histoire de la physique. comment est-elle née, par quelle méthode, sur quel postulat épistémologique s'appuie cette discipline, quelles ont été les trajectoires suivies par les connaissances, comment les connaissances sont devenues des connaissances dans l'histoire des idées.
On peut
avoir de très bonnes connaissances sans savoir répondre à cette question. Par exemple, on peut savoir que la Terre est ronde sans savoir dire comment on a su qu'elle est ronde. Mmh. Et le fait de ne pas savoir dire comment on a su dans l'histoire des idées que la Terre est ronde, ça fragilise
notre pensée
quand on est par exemple en face d'arguments développés par les platistes, dont certains sont très subtils.
Donc, connaître l'histoire des sciences, mais pas seulement. Vous dites aussi dans un de vos tout premiers chapitres, et c'est une des premières fois qu'on lit votre histoire intime. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, ce court-circuit est publié dans la collection prestigieuse Blanche chez Gallimard, une collection de littérature. Donc là encore, c'est un peu des courts-circuits. On vous connaissait physicien, philosophe, écrivain, mais véritablement écrivain, du coup.
Là, ce n'est pas vraiment un essai, c'est plutôt la concaténation de 10 essais indépendants, chacun racontant un type de court-circuit. Le premier, en effet, il est assez intime.
Il est très intime.
Je parle de mon frère aîné, qui est mort il y a un an, dans des conditions tragiques. Il ne s'agit pas de me livrer, il s'agit de prendre son cas, qui me semble exemplaire, de la façon dont, dans le système scolaire français, à une certaine époque, celle que j'ai connue lorsque j'étais adolescent, comme mon frère d'ailleurs, on avait tendance à considérer que intelligent voulait dire intellectuel ou scientifique, et puis pas intelligent voulait dire manuel. Or, cette dichotomie n'a pas beaucoup de sens. Quand on peut penser avec ses mains, et des mains qui pensent, elles sont activées par un esprit qui pense. Les guides de haute montagne sont à leur façon des intellectuels, les maçons également. Et il y a une sorte de mépris pour les professions manuelles qui se ressent dès la façon d'enseigner les disciplines à l'école, qui me semble avoir fait des ravages dans la psychologie de beaucoup de gens de ma génération.
Ce chapitre intime, troublant hein, pour nous qui le lisons, vous l'avez intitulé « Faire et penser le parti pris de Pascal ».
C'était le prénom de mon frère.
Votre frère, et qui éprouvait, qui apprenait par corps, dites-vous, et pas par cœur. Je trouve ça très fort, parce que penser et faire, on les accole rarement ensemble, et le corps et l'esprit, on les dissocie aussi.
Mon frère, c'était mon antiparticule, au sens où il était rétif à l'abstraction, tombé dans les pommes devant la moindre équation, n'aimait pas les raisonnements abstraits, et par contre, il démontait, je me souviens quand on était enfant, le jour de Noël, on avait nos cadeaux, et quand j'avais 3 ou 4 ans, j'avais reçu en cadeau une locomotive, et une heure après, elle était démontée. Il l'avait démontée, il avait besoin de la démonter pour comprendre. Il avait besoin de toucher pour sentir, et il avait besoin de sentir pour comprendre. Et donc, il a été assez vite capable de réparer, après avoir beaucoup cassé, il a été capable de réparer toutes sortes d'objets techniques, de machines, de moteurs, électriques, pas électriques, etc. Chose que je suis incapable de faire. Et cette qualité qui relevait chez lui du génie n'a pas été repérée par ses professeurs, qui l'ont au contraire plutôt humilié par le fait qu'il n'était pas bon en mathématiques, n'aimait pas les mathématiques dites modernes qu'on a enseignées dans les années 70, en s'interdisant à chaque fois de rapporter ce qui était enseigné au moindre problème concret. Alors mon frère, c'était le concret qui était pour lui l'essence même du réel. Et il a compris sur le concret beaucoup plus de choses que moi par l'abstraction. Et il n'y a qu'à l'armée, quand il a été appelé de contingent, il a pu faire les EOR, les écoles d'officiers, parce que les militaires avaient remarqué chez lui ce don, et il a pu devenir officier alors qu'il n'avait pas le bac.
Votre frère Pascal Klein, vous citez d'ailleurs à son propos, vous dites que si on lui avait dit que Einstein, un autre de vos idoles, de vos héros, de nos héros, on peut le dire comme ça, si on lui avait dit qu'Einstein lui aussi avait un peu du mal à l'école, il était un peu cancre et qu'il n'avait pas l'esprit.
Cancre, c'est pas le mot,
mais il n'était pas formaté en tout cas.
On en fait un esprit qui est vraiment porté vers la théorie, vers l'abstraction, vers les idées, en oubliant de dire qu'Einstein a déposé un très grand nombre de brevets, qu'il était bricoleur.
Oui.
Quand il était à l'école polytechnique de Zurich, il passait du temps dans le laboratoire à faire des expériences, à bricoler, plutôt qu'à suivre les cours de mathématiques, notamment les cours de mathématiques de géométrie non euclidienne, qui lui serviront plus tard pour faire sa théorie de la relativité générale. Et quand il a compris qu'il aurait besoin de ces géométries-là très particulières, mais comme il avait séché les cours, il a collaboré avec Marcel Grossmann, qui était son compagnon à l'école polytechnique de Zurich, et qui, lui, n'avait pas séché les cours.
Donc il s'est rattrapé comme ça, Einstein. Mais en même temps, ce que vous dites, Étienne Klein, c'est que finalement, il faut quoi ? Faire feu de tout bois, de toutes pas seulement nos capacités, mais ne pas privilégier la pensée au détriment des mains et de l'action.
Je ne dis pas qu'il faut se disperser, là encore. Je dis que l'intelligence, elle se déploie selon un spectre qui est très large. Et il y a différents types d'intelligence, qu'on peut classer d'ailleurs. Il y a une intelligence de type A, une intelligence de type B, de type C. Mais notre esprit, dès lors qu'il prend acte que A n'est pas égal ou n'est pas la même chose que B, se pose la question, est-ce que A est mieux que B ? Ou est-ce que B est mieux que A ? Autrement dit, dès qu'on pense un écart, on pense une hiérarchie.
Et c'est là où on a tort.
Et c'est là qu'on a tort. Penser les écarts, c'est très bien. Les hiérarchiser, établir entre tel type d'intelligence et tel autre une relation d'ordre, au sens où la première serait supérieure à la seconde, me paraît être un automatisme qu'il faut tenter de défaire.
Et pour le défaire, il faut quoi ? Il faut aussi aller dans le sens, vous parlez d'étincelles, provoquer des étincelles, des courts-circuits, dans le sens d'association d'idées, c'est-à-dire connaître bien ces sujets, plusieurs sujets, et au fur et à mesure, voir comment on peut faire des passerelles, pour revenir à Michel Serres, cette science des passerelles de l'un
exactement,
à l'autre.
Exactement, Michel Serres avait dit cela, il faut voyager entre les idées, les théories, les concepts. Et je pense que la pensée, en fait, ne s'active que quand elle est provoquée. Et elle n'est provoquée que lorsqu'elle est démentie par des faits. Par exemple, mon frère, il devenait fou quand un moteur ne marchait pas comme il attendait qu'il marche. Ça l'énervait et du coup, il voulait comprendre. Et il était provoqué au point qu'il allait peut-être changer ses idées par le refus que le réel venait de lui apporter. Et dans les idées, c'est pareil. Quand votre pensée est contredite par un événement, par une information qui n'est pas cohérente avec votre pensée initiale, eh bien, soit vous la négligez, vous êtes dans le déni, soit au contraire, vous voyez comment votre pensée doit être modifiée pour tenir compte du nouvel élément qu'elle vient de recevoir. Je pense que la pensée, elle ne s'active que sous le coup d'un paradoxe. Il faut un paradoxe pour penser.
Il faut un paradoxe pour
d'ailleurs,
penser.
D'ailleurs, un grand philosophe que j'aime beaucoup, Kierkegaard, disait que le paradoxe est le combustible de l'intellect. Eh bien, pour quelqu'un qui s'intéresse à la pratique des choses, le paradoxe, c'est une machine qui, tout d'un coup, dit non. Non, je ne suis pas d'accord, je ne marche pas.
Ou bien une anagramme totalement renversante, puisque vous aimez beaucoup jouer avec les mots et avec les anagrammes. Ce qui n'est pas du tout, Étienne Klein, dans l'air du temps, si j'ose dire. Parce qu'aujourd'hui, sur nos réseaux sociaux ou ailleurs, on essaye... Quoi, on se rassemble entre nous, on est entre gens convaincus
enfin... Exactement, on l'a surtout vu pendant la pandémie. Évidemment, le numérique nous a beaucoup aidés pendant le confinement. On a pu télétravailler, téléenseigner, prendre des nouvelles de nos proches, même les voir à distance sans risquer de les contaminer ou d'être contaminé par eux. Mais on a vu aussi que chacun d'entre nous, en quelques clics, peut fabriquer... une sorte de chez-soi idéologique,
c'est ça.
C'est-à-dire communauté numérique qui rassemble des personnes qui pensent comme vous, qui croient comme vous, qui s'abreuvent aux mêmes sources que vous, et vous êtes ainsi soumis à des biais de confirmation qui vous renforcent dans vos idées, alors que la pensée consiste justement à accepter des arguments qui nous contestent.
Alors comment justement se contester soi-même finalement autour de la question comment provoquer des étincelles ? Pourquoi chez vous, Étienne Klein, Einstein et Rolling Stones ont-ils, je ne sais pas si c'est la même place, mais en tout cas beaucoup de place dans votre vie, de manière différente, de tirer la langue, je ne sais pas. On y revient à Einstein, juste après avoir écouté votre groupe de rock préféré, le meilleur du monde, si je vous crois,
le
à peu
plus
près.
Grand du monde,
le plus grand du monde.
Le plus grand, c'est sûr.
Et ce morceau à 2000 années-lumière de nous que vous avez choisi, Étienne Klein, 2000 light years from now, les Stones sur RFI.
Turning round with graceful motion, we're setting off with soft explosion, bound for a star, fiery ocean. It's so very lonely, you're 100 light years. Deserts turn to dark. Energy here.
1000 light years from now. Pourquoi ce choix musical précisément dans la discographie des Rolling Stones que vous connaissez, Étienne Klein, j'ai envie de dire par cœur et par corps?
Bah, c'est une chanson, un voyage dans l'espace. On se sent seul c'est quand ça. On va très loin. Et je vous ai dit, c'est le plus grand groupe du monde. Je reviens là-dessus, je pense que c'est le meilleur.
Ah, le meilleur groupe de rock du monde que vous alliez dans votre ouvrage Court Circuit, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, vous alliez donc Einstein, le père de la théorie de la relativité, et les Stones, le plus grand groupe de rock du monde. Voilà un sacré court-circuit qui a fait des étincelles chez
oui,
vous.
Oui, comme j'aime beaucoup Einstein, comme vous le savez, beaucoup les Stones, je me suis dit, tiens, je vais essayer de les rapprocher. J'avais pas vraiment d'argument au départ, mais quand on cherche...
À part le fait qu'il tire la langue.
Et il y a aussi le nom, Einstein en allemand, ça veut dire une pierre. Stones en anglais, ça veut dire des pierres. Donc on passe du singulier au pluriel. Quand j'étais adolescent dans ma chambre, il y avait deux posters d'Einstein. Un, on le voit jeune, avec le regard très vif. Un autre, il est plus âgé, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, après Hiroshima. Il a le regard assombri, presque triste. Et entre les deux posters d'Einstein, il y avait un poster des Stones. Donc je suis resté fidèle à mon adolescence. Et si on veut trouver des moyens d'organiser un court-circuit entre les deux, on trouve. Il y a la langue, évidemment, vous en avez parlé, Einstein qui tire la langue aujourd'hui, c'est 72 ans. Le logo des Stones, dessiné par John Pasch en 71, c'est une langue un peu plus arrondie que la langue pointue d'Einstein. Mais surtout, je me suis rendu compte qu'il y a des endroits où ils se sont rencontrés, à des périodes différentes. Mais par exemple, quand Einstein a quitté l'Europe en 33 pour ne plus jamais y remettre les pieds, après l'arrivée de Hitler au pouvoir en Allemagne, avant de partir à Princeton, en provenance de la Belgique, où il avait trouvé refuge, il s'est arrêté à Londres. Il a donné une conférence le 3 octobre 1933 au Royal Albert Hall, qui est une grande salle londonienne qui contient, je crois, 10 000 places. Et il a prononcé un discours qui est un éloge de la liberté. Et il explique que contre Hitler, il faudra se battre. Einstein, le pacifiste, cesse de l'être à cause d'Hitler. Quand on relit ce discours aujourd'hui, on voit qu'il résonne avec l'actualité d'une façon très forte. Et les Stones ont donné un de leurs premiers concerts londoniens en 63, donc 30 ans plus tard, dans cette même salle. J'ai retrouvé l'affiche. Il n'y a pas vraiment d'image, pas de photo, je crois. En tout cas, je n'en ai pas trouvé. Ils avaient 19 ans à l'époque. Et Keith Richards, le guitariste, est présenté comme étant un guitariste de 19 ans qui rêve d'avoir une péniche sur la Tamise. Ce qui n'est pas une très grande définition de l'esprit rock'n'roll, mais comme vous le savez, après, ils se sont davantage rock'n'rollisés, si on peut dire.
Autour de la question, comment provoquer justement des courts-circuits, des étincelles dans la vie des idées, par quel coup de dé, aurait dit Einstein, selon qui Dieu ne jouait jamais au dé, nous voilà maintenant sur les rives du hasard, parce que vous abordez aussi, évidemment, cher Étienne Klein, dans ces courts-circuits, ce sujet. Nouvelle question pour vous, soulevée par un découvreur, lui aussi à la croisée des chemins de la génétique, de la paléontologie et de l'éthologie, c'est le paléogénéticien Ludovic Orlando, qui grâce à l'ADN ancien a révélé une nouvelle histoire, même une nouvelle préhistoire de la domestication du cheval et des ânes. On l'écoute vous interroger.
Cher Étienne, en effet, dans ma pratique de la science au quotidien, très souvent, on fonctionne par rattachement d'objets qui semblent n'avoir aucun rapport les uns avec les autres. Et ce nouveau tout fait un nouveau paradigme qui est souvent à l'origine de nouvelles découvertes en science. Je me posais la question de savoir, pour vous, quelle est la part du hasard dans le jeu scientifique aujourd'hui? Autrement dit, quelle est la part de l'imprévu dans la découverte elle-même? À quel point les scientifiques seraient en fait des instruments à capter des phénomènes improbables, et ces improbables-là sont les germes d'une nouvelle science en devenir.
Votre réponse,
ben, c'est une vaste question. Quand on trouve quelque chose qu'on ne cherche pas, en cherchant quelque chose qu'on ne trouve pas, on appelle ça la sérendipité.
Voilà,
c'est la façon
de
trouver des choses. Mais comme le disait Louis Pasteur, le hasard ne sourit qu'aux esprits préparés. Si on revient sur Einstein, il a connu alors qu'il était ingénieur au bureau de la propriété intellectuelle à Berne en 1905, une année miraculeuse. Notamment, il a écrit ce papier sur la théorie de la relativité à partir de l'examen qu'il faisait des brevets électromagnétiques, où les gens à l'époque essayaient de synchroniser les horloges à distance puisque les gens voyageaient, on voulait pouvoir unifier l'heure sur un territoire assez grand. Et il regardait ses brevets, et c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec la théorie de l'électromagnétisme de l'époque, mais ses collègues aussi examinaient les mêmes brevets. Or, c'est chez Einstein que ça a fait de la résonance, parce qu'il était préparé. Et donc, le hasard, les circonstances jouent un rôle qu'on ne peut pas prévoir. Mais il faut quand même avoir quelque chose dans la tête qui fasse qu'on voit des choses que les autres ne voient pas. Et d'ailleurs, Einstein, un peu plus tard, a expliqué que c'est parce qu'il était au bureau des brevets, à examiner ce type de document qu'il a pu mettre sur pied la théorie de la relativité. S'il avait été à l'université, dit-il, il aurait été soumis à la pression de la publication et il n'aurait sans doute pas eu le temps de réfléchir à ces questions-là. Il avait besoin de brevets, de voir comment ça marche, ce qui nous ramène à mon frère.
C'est ça.
Au sens où l'aspect pratique des choses, associé à un souci de cohérence intellectuelle, lui a fait avoir des idées que les autres n'avaient pas. Et Einstein, il avait une pensée qu'il appelait musculaire. Quand Jacques Adamar, un grand mathématicien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a interrogé aux États-Unis, où il avait trouvé refuge, des physiciens théoriciens et des mathématiciens pour savoir comment les idées leur venaient, Einstein a répondu au questionnaire. Il dit « j'ai une pensée musculaire, j'ai besoin de mettre en scène mon corps dans des expériences de pensée pour sentir ce que mon corps éprouverait dans une telle situation ». Par exemple, il explique qu'il s'est demandé très jeune, d'ailleurs à 15 ans, comment il se comporterait s'il était à cheval sur un rayon lumineux. Qu'est-ce que mon corps ressentirait s'il était à cheval sur un rayon lumineux?
Il faut être Einstein pour te poser la question.
En 1907, il a, dit-il, l'idée la plus heureuse de sa vie. J'ai compris, dit-il, ce jour-là, qu'une personne qui tombe en chute libre ne sent pas son poids. Ça a provoqué en moi, dit-il, une très forte émotion qui m'a mené 8 ans plus tard vers une nouvelle théorie de la gravitation. Et ce qu'a compris là, grâce à Einstein, grâce à une expérience de pensée dans laquelle il met en scène son corps, il imagine qu'il est en train de tomber en chute libre, dans le vide. Eh bien, il imagine qu'il tombe avec son stylo dans la main, il lâche son stylo. Son stylo n'a pas la même masse que lui. Mais Galilée nous a expliqué que tous les corps tombent à la même vitesse dans le vide. Donc s'il lâche son stylo, il va voir que son stylo tombe à la même vitesse que lui, c'est-à-dire ne tombe pas par rapport à lui. Oui. Il verra donc son stylo en impesanteur. Et ça va le bouleverser. Le fait de subir la gravitation crée l'impression que la gravitation qui pourtant provoque votre chute n'existe plus.
Nous voilà dans les paradoxes.
Il a voulu clarifier la chose. Il a compris qu'en fait, quand nous ne sommes soumis qu'à notre poids, nous ne sentons pas que nous avons un poids. Pour sentir son poids, il faut une autre force que le poids. Par exemple, au moment où je vous parle, je suis assis sur ma chaise, et c'est la réaction de ma chaise à mon poids qui me fait sentir mon poids. S'il n'y avait pas de chaise, je ne sentirais pas que j'ai un poids.
De l'importance des expériences de pensée à travers le corps, de l'importance aussi de l'histoire des sciences et de comprendre comment une pensée est venue à l'esprit, de l'importance aussi du vertige ou du hasard. On l'a dit, vous aimez les anagrammes renversantes, chercher le sens caché du monde. Et vous avez aussi consacré un ouvrage à un étrange physicien, lui aussi génial, Majorana.
Ettore Majorana.
Ettore Majorana, qui a disparu sans laisser de traces. Et vous racontez une histoire étrange. Vous écrivez son histoire, une enfer Rochereau. Il y a aussi plein de hasards là-dedans, Étienne Klein.
Il y a des résonances. Je ne sais pas quel est le bon mot.
Coïncidence, résonance.
Synchronicité, diraient les Jungiens.
C'est ça, synchronicité.
Donc, j'ai emménagé dans un appartement après avoir mené une enquête sur Ettore Majorana en Italie et en Sicile où il a vécu. Une enquête de type modianesque. Modiano.
Prix Nobel de littérature.
Voilà, il explique toujours comment l'espace, le temps s'entremêlent et comment, en allant dans le présent à un endroit où quelqu'un a vécu dans le passé, on peut sentir des choses comme si l'espace-temps se structurait en strates. Et j'avais suivi cette démarche. Et quand j'ai emménagé dans cet appartement, au moment où sort mon livre sur Majorana, j'apprends grâce à une voisine de cet immeuble qu'un roman de Modiano qui s'appelle Chien de printemps se déroule dans l'appartement dans lequel je suis en train d'emménager. Et donc ça a fait court-circuit entre...
Court-circuit entre en plus la vie de ce physicien qui est assez folle puisqu'il a disparu corps et bien sans qu'on sache si c'est pas le vide quantique qu'il a absorbé.
Enfin, on ne sait pas ce qu'il est devenu. On n'est pas sûr qu'il se soit suicidé, on n'a jamais trouvé son corps. Il y a toute thèse qui coexiste. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que ce physicien qui a disparu donc à l'âge de 31 ans 1938, et fait l'actualité, puisque des papiers qui viennent d'être publiés dans Nature montrent que des états collectifs dans la matière qui avaient été prédits par lui ont été pour la première fois observés. Donc il y a une résurrection de Majorana plusieurs décennies après sa disparition. Et donc je me suis demandé, est-ce que je suis arrivé là par hasard, ou est-ce que quelque chose dans ma trajectoire m'a déterminé à choisir d'habiter dans cet appartement plutôt que dans un autre.
Au moment où vous finissiez d'écrire cet ouvrage sur Majorana, Étienne Klein, vous défendez donc cette science des passerelles, hein, finalement, des associations des passerelles que vous appelez de vos voeux. Alors, vous ne dites pas, hein, dans cet ouvrage le mot interdisciplinarité, vous nous avez expliqué pourquoi. Parfois, moi, je trouve que c'est assez indiscipliné aussi comme démarche. Mais cette démarche de faire des passerelles, de faire cette science des passerelles, est-ce qu'elle est vraiment accessible à toutes et à tous? C'est une sacrée question soulevée par mon confrère de Sciences et Avenir, Roman Ikonikov.
Pour un jeune chercheur, prendre ce truc de multidisciplinarité, de travailler avec d'autres équipes qui ne sont pas dans sa discipline, ça le tue en termes professionnels, quoi. C'est-à-dire que toute la recherche est faite pour que ces courts-circuits soient la possibilité de personnes qui sont déjà arrivées et tout ça, et que donc finalement il y a tout un truc à développer, mais carrément à restructurer la science pour pouvoir réellement faire ce genre de court-circuit, donner un lieu où justement il y a des passages qui se font, parce que la recherche n'est pas organisé pour ça, quoi.
Et c'est-à-dire que ça pénalise les jeunes chercheurs?
Ah oui, aucun jeune chercheur ne va dire « Bon, moi, je suis physicien, mais je vais sortir un article où je vais travailler avec des psychologues, parce que le système n'est pas fait pour. » Donc, c'est des vœux pieux. Et il y a la question de... bon, en France en particulier, c'est quand même un combat de pouvoir faire admettre au niveau du CNRS et tout ça que la multidisciplinarité, les collaborations transversales comme ça sont pas en pure perte et qu'il faut pousser les jeunes notamment à faire ça, alors que ça tue leur carrière.
Vous pouvez vous répondre à cette question, à cette critique justifiée, hein,
la critique est justifiée. Alors, revenons à Einstein. Einstein a écrit des articles sur l'économie. Il s'est exprimé sur toutes sortes de sujets. Majorana a écrit un article très important sur les sciences sociales. Est-ce que les lois physiques aident à comprendre les lois de la société? Mais en fait, quand on est jeune, évidemment, si on dit qu'on va faire de l'interdisciplinarité, on est soupçonné de vouloir se disperser, de fuir en fait. Mais je pense que il faut penser les disciplines comme les nombres entiers dans l'ensemble des entiers naturels.
C'est-à-dire?
C'est que chaque discipline, c'est un nombre. Okay. Un nombre entier qui est isolé des autres. Il y a un nombre entier qui correspond à la chimie, un autre à la physique, etc. Et il faut penser comme si les nombres réels qui, eux, forment un spectre continu étaient le lien entre les disciplines. Et à mon avis, la façon de sortir un peu de sa spécialité, c'est de lire. C'est la littérature qui fait le lien entre les disciplines. Ouais. Moi, je me suis intéressé à la philosophie par le biais de la littérature. Je lisais beaucoup de romans, d'essais. Et c'est en élargissant comme ça le spectre de ces lectures qu'on voit des résonances apparaître dans l'ailleurs des autres. Mais on ne peut pas comme ça décider, je veux faire de l'interdisciplinaire. Ça vient naturellement avec l'âge. Je pense que quand on est jeune, on a besoin de creuser son sillon.
Et d'être connaître quelque chose.
De ne pas trop se perdre, d'avoir une sorte de reconnaissance. Et après, on peut diffuser.
On peut élargir. Alors, un de vos héros, là c'est carrément, on peut parler d'un héros, c'est un philosophe et mathématicien génial qui fut à la fois un homme de pensée et d'action, engagé corps et âme dans la résistance au prix de sa vie, hein, c'est Jean Cavaillès, fusillé en 1943 après avoir été torturé par les Allemands, après avoir eu de multiples noms de résistants, l'agrégé saboteur, après avoir poursuivi ses recherches sur l'infini en prison. Jean Cavaillès, pourtant méconnu, héros aussi du film de Melville, enfin, un des héros sous-jacents de l'Armée des Ombres du film de Melville, c'est un de vos héros parce qu'il pense à la fois avec son esprit, avec son corps, parce qu'il s'engage, parce qu'il est cohérent et parce qu'il va jusqu'à la mort, tout en continuant à travailler mathématiques et philosophie.
Un de mes amis qui a lu le livre, Court-circuit, m'a dit que c'est un traité sur l'admiration. Et Cavaillès, pour moi, c'est le héros des héros. C'est-à-dire, c'est en effet un très grand esprit à qui on avait demandé de mettre son cerveau en repos pour la France. Et lui, au contraire, il s'est engagé dans la résistance. Il a monté des réseaux, il a fait des opérations commando multiples. Il a été emprisonné plusieurs fois, s'est évadé à chaque fois. Et à ma connaissance, c'est le seul personnage de la résistance très important qui, en même temps, produit une œuvre intellectuelle de très très haut niveau pendant la guerre.
Sur
notamment en prison. Avant la guerre, il avait été en Allemagne plusieurs années pour travailler sur l'infini. Notamment, il a traduit en français la correspondance entre Cantor et Dedekind sur l'infini, mathématiques. Et il s'est engagé d'une façon absolument radicale. Et lui aussi illustre une façon d'associer la pensée et l'action d'une façon qui est absolument impossible à égaler. Il a fait preuve d'un courage physique incroyable, une détermination dans l'engagement, sans avoir jamais écrit une seule ligne sur l'engagement.
La morale d'acier, dites-vous, de Jean Cavaillès, et vous citez en exergue ce que disait de lui un autre grand philosophe, Georges Canguilhem, extrait.
D'ordinaire, pour un philosophe, entreprendre d'écrire une morale, c'est se préparer à mourir dans son lit. Cavaillès a donné ainsi sa morale sans avoir à la rédiger. Cavaillès, philosophe combattant, enseigne aux hommes, dits d'action, que l'action n'est pas une inconsistante et lâche pratique empirique. Cavaillès, philosophe mathématicien, enseigne aux terroristes littéraires qu'avant d'être la sœur du rêve, l'action doit être fille de la rigueur. C'est une figure unique. Si ce n'est pas un héros, qu'est-ce qu'un héros ? Jean Cavaillès est la logique de la résistance vécue jusqu'à la mort. Que les philosophes de l'existence et de la personne fassent aussi bien la prochaine fois s'ils le peuvent.
Voilà de quoi forcer le respect.
C'était la voix de Canguilhem ?
De Canguilhem, exactement. Déniché sur, que je vous dis exactement, sur Radio J dans l'émission Philosophie de Blandine
Trigel. Incroyable, parce que moi je l'ai cité ce texte, enfin une partie de ce texte, mais je ne savais pas qu'on pouvait l'entendre, de la voix de son auteur.
Nous l'avons trouvé et nous avons eu envie de le passer, d'autant que Jean Cavaillès n'est pas si connu que ça. Peut-être des mathématiciens, des philosophes, mais moins du grand public et cette figure de résistant.
Il y a une salle à son nom à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, un amphi à la Sorbonne, mais en effet, je ne comprends pas très bien pourquoi il n'est pas au Panthéon.
Intelligence analytique et courage physique, c'est vraiment.
Il disait, je suis entré en résistance par logique.
Par logique.
Pas par raisonnement. Il n'y a pas à raisonner.
Il n'y avait pas d'autre choix.
Il n'y a pas de choix. Il était spinoziste de ce point de vue-là. On est embarqué, on n'a pas à discuter, on y va.
Je propose de nous embarquer maintenant sur un autre chemin musical, celui-ci que nous proposons de suivre et qui nous inspire aussi. C'est un vrai pont, une vraie passerelle musicale entre la violoncelliste et chanteuse Anissa Altmaier et le saxophoniste haïtien et canadien Joey Homicile. Ensemble, ils tracent un très joli chemin sur RFI.
Jette un œil sur ce chemin, regarde le temps, lui la main. Tu vois, il y a des fausses notes partout. Si t'écoutes bien, ça peut rendre fou. Y a des ratures et des trous, des sauts dans le vide, des points, des flous, des réactions violentes, du dégoût. Et au fond de ça, y a un peu de nous. Tu laisses une trace sur pile et face, je rate le marché, tout. Écoute bien ce refrain. Hey. Donne-moi ta main, ça me fait du bien. Ah!
Le chemin dans la voix d'Anissa Altmaier et de son violoncelle et du saxo de Joey Homicile sur RFI, juste pour le plaisir et la joie de faire des associations inédites et inattendues en votre compagnie, Étienne Klein. Je rappelle que vous êtes physicien et philosophe des sciences, chercheur interdisciplinaire et indiscipliné. Vous venez de publier un essai à nul autre pareil, Court-circuit, dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditrices et auditeurs, il vous suffit de nous le demander par mail ou sur notre page Facebook. Autour de la question comment provoquer des étincelles en associant des idées, des notions, des domaines trop souvent séparés ou compartimentés, alors que nous-mêmes, nous sommes déjà tellement multiples dans nos idées, dans nos identités, comme nous le rappelait ici même l'un des plus inspirants philosophes contemporains, Souleymane Bachir Diagne, professeur et passeur entre Saint-Louis du Sénégal, New York et Paris.
Le fameux vers de Victor Hugo, je suis légion. Je crois que nous pouvons tous dire que nous sommes légion. Parfois, on a l'impression que c'est difficile à vivre, qu'il s'agit d'hésiter entre des directions différentes. On a le sentiment qu'on ne peut pas concilier nos identités, qu'elles ne se fondent pas ensemble nécessairement. Et donc, il est heureux que des ouvrages de cette nature nous disent « il est bel et bon qu'il en soit ainsi ». Que nous soyons légion sans avoir forcément le besoin d'intégrer toutes ces identités qui sont les nôtres en une seule, parce que peut-être qu'elles ne peuvent pas s'intégrer. J'aime la musique classique, j'aime le jazz, mais j'aime aussi la musique qu'écoutent mes propres enfants, parce que c'est toujours la musique. Essayer de comprendre pourquoi je peux passer de l'une à l'autre, c'est compliqué et c'est même impossible. Et j'ai l'impression également que parmi les différentes langues que je parle, de les parler, c'est une manière pour moi d'habiter des identités différentes.
Vous voulez réagir à cet éclairage du philosophe, traducteur, penseur et professeur, qui a aussi fait des mathématiques d'ailleurs, Souleymane Bachir.
C'est tellement bien dit. Je suis légion, ça c'est Victor Hugo, mais là, le commentaire que Souleymane propose ensuite est parfait. Nous avons plusieurs mois, en fait, qui cohabitent, qui se parlent plus ou moins, ou qui se succèdent dans le temps. Et il faut essayer de leur donner la parole ensemble, qui discutent, qui s'apprennent des choses mutuellement, qui s'enrichissent sans se combattre.
C'est ça, hein, et peut sortir de là quoi ? Au fond, des fulgurances, enfin, c'est de ces frictions-là, de ces liens entre différentes facettes de nous-mêmes, différents savoirs que nous avons développés, différentes
Absolument.
Sensibilités.
D'ailleurs, le court-circuit n'est peut-être pas la meilleure image. À la fin, dans la conclusion, je parle du vide quantique.
Quand
on fait une collision de particules dans le vide quantique, on donne de l'énergie aux particules qui sont dans le vide quantique, qui sont seulement virtuelles. Elles ne sont pas complètement accomplies, il leur manque de l'énergie. Mais l'énergie de la collision va leur donner l'énergie qui manque à leur pleine incarnation. Elles vont sortir du vide. Et donc, il y a un jaillissement qui serait l'équivalent pour le court-circuit de l'étincelle. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que dans ces court-circuits, on fait apparaître des idées.
Et donc, ce vide quantique qui n'est pas du vide, on fait apparaître
Des nouvelles particules. Et donc, on fait apparaître de nouvelles idées, pour prolonger la métaphore. Et avoir des idées, c'est quand même une source de joie qu'on ne peut pas négliger, surtout par les temps qui courent.
C'est clair, avoir des idées et des idées nouvelles. On en revient aussi à Michel Serres, dont vous parliez, qu'on a entendu au début de cette émission, et qui disait, je me souviens, ça m'avait marqué, au fond, on parle tout le temps de nouveautés, mais les vraies nouveautés, elles ne sont pas dans les nouvelles, elles ne sont pas au journal, parce que les vraies nouveautés, elles nous échappent.
Bon, moi, je ne prétends pas faire des inventions. Simplement, par ces courts-circuits, par ces rapprochements entre des verbes, des concepts, etc., eh bien, on apprend aussi une meilleure façon plus claire de les transmettre, en élargissant le spectre sur lequel on peut s'appuyer pour les expliquer. Les métaphores, par exemple les références littéraires, parfois, permettent de dire des idées de physique, plutôt que de simplement écrire des équations. Ça rend tous les savoirs beaucoup plus vivants que lorsqu'on les laisse dans la sécheresse de la discipline dans laquelle ils sont apparus.
Ça, c'est ce que vous dites, Étienne Klein, en tant que passeur, formidable passeur de sciences et de philosophie, et de physique aussi. Qu'est-ce que vous diriez aux jeunes étudiants qui nous écoutent aujourd'hui, en sciences humaines comme en sciences exactes, sur toute la planète, et notamment en Afrique, où nos auditeurs sont très nombreux? Qu'est-ce que vous auriez envie de faire passer, justement?
Je salue l'Afrique, déjà. Je pense que c'est important de lire des livres.
Oui.
Les jeunes lisent beaucoup, hein, des articles, des textes parfois très courts. Mais je pense que le livre, avec sa linéarité, quand on lit un livre, on doit aller du début à la fin, on ne peut pas sauter de page, normalement, hein, sinon on perd le raisonnement. Ça oblige à vraiment insister, à revenir sur ce qu'on ne comprend pas, et à buter. Et je pense que les joies intellectuelles, elles sont proportionnelles au temps qu'on passe à se poser des questions sans avoir les réponses. Et moi, je vois chez mes étudiants une tendance de plus en plus forte, dès qu'ils se posent une question, aller sur ChatGPT ou sur Google. Mais non, il ne faut pas y aller tout de suite. Il faut d'abord réfléchir. Quelle est la bonne réponse à la question que je me pose? Il faut se promener avec la question.
Il faut cheminer avec la question.
Il faut cheminer avec la question. Il faut même se trouver nul de ne pas trouver la bonne réponse. Et puis, au détour d'une lecture, d'une rencontre, d'une discussion, ou même d'une réflexion qu'on a à l'intérieur de soi-même, trouver la réponse. Et ça, c'est une joie terrible. Il ne s'agit pas d'inventer quelque chose de radicalement neuf.
Ouais.
Même la démonstration d'un vieux théorème. Le théorème de Pythagore, on l'a tous appris à l'école, mais comment est-ce qu'on le démontre? Alors, si vous vous précipitez sur la solution, vous ratez la joie de comprendre quand elle vient de vous.
Ça, c'est aussi l'alpiniste qui parle, la joie, le chemin. Enfin, on a
exactement
l'impression qu'il y a... C'est ça, hein.
Aller au sommet du Mont Blanc par hélicoptère, c'est beau, mais ça ne provoque pas la joie qu'on ressent quand on y va à pied.
Et la joie, du coup, c'est la joie de l'esprit et c'est la joie qu'on ressent dans le corps.
Et de l'effort.
Et de l'effort. Donc, c'est le tout ensemble.
Mais écoutez, il y a eu un débat au XIXe siècle. Est-ce que pour bien penser, il faut être assis ou est-ce qu'il faut être en mouvement? Nietzsche disait, méfiez-vous de toute idée qui n'est pas née à l'air libre dans un contexte musculaire. Flaubert disait, ben non, il faut être assis à sa table. Et il y a un compromis, d'ailleurs, entre Flaubert et Nietzsche, c'est le vélo. En vélo, on est assis et on bouge.
Ah, merci de faire cet éloge inattendu du vélo. Un grand merci Étienne Kern d'avoir partagé, alors je ne sais pas s'il faut dire tous ces courts-circuits, mais en tout cas tous ces mélanges des genres avec nous. Je vous rappelle, chers amis auditrices et auditeurs, que vous pouvez gagner cet essai d'Étienne Kern dans Court-Circuit, paru chez Gallimard dans la collection Blanche. Il vous suffit de nous le demander joliment, gentiment, sur notre page Facebook ou par mail, et vous aurez peut-être la chance, le hasard, allez, de le recevoir chez vous. Qui sait, grand merci pour votre présence aujourd'hui, Étienne Klein. À bientôt, vous revenez quand
vous
voulez. Hein.
Merci.
Retrouvez Autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast disponible sur toutes les plateformes et sur l'application RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain avec Thibaut Baduel à la réalisation et Raphaël Pluxva en coulisses pour plonger dans les abysses, la découverte de formes de vie insensées, stupéfiantes qui vivent à plus de 2000 mètres de profondeur dans les sources hydrothermales au fond des dorsales océaniques. Une plongée à partager ensemble demain. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre curiosité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI.